tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis, et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne tes pieds. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis, et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne
La lecture d'aujourd'hui, c'est Matthieu 6, les versets 5 à 15. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.
Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, ça semble être le cas. Alors voilà, je vous dis officiellement, pas officiellement, je vous dis bonjour, ceux que j'ai pas pu saluer en tout cas. Et donc voilà, je suis bien comme on a dit, Michel Jeanrenaud, le pasteur de l'église évangélique de la Pélisserie, une église donc qui fait partie de la Frée, comme votre église, comme deux autres communautés sur Genève, Mérin et Grand Lancy. Et deux fois par an, on a choisi de faire des échanges de prédicateurs. Et donc aujourd'hui, Roger, il prêche à la Pélisserie. Alors j'espère qu'il a commencé, mais voilà. Parce que parfois, il y a les choses avant, c'est un peu long. Mais voilà, je lui souhaite en tout cas que le Seigneur bénisse le culte à la Pélisserie. On a aussi prié avant pour eux là-bas. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez reçu un courrier qui vous promettait une grande somme d'argent ou qui vous promettait une affaire en or? Alors aujourd'hui, c'est assez commun de recevoir ce genre de courrier. Moi, j'en reçois souvent aussi par l'email, par le courrier électronique. Alors bon, on enregistre l'adresse, on la bloque et puis on élimine, mais on continue de recevoir des choses comme cela. Et pourquoi je vous parle de ces courriers-là? C'est parce qu'en fait, ces courriers, ils promettent des choses qu'en fait, ils n'accomplissent pas. C'est des fausses promesses. Mais dans la Bible, Dieu, lui, il nous fait des vraies promesses. Et par rapport à la prière, eh bien, il nous a donné un modèle de prière, le Notre Père, comme on l'a lu, qui est vraiment efficace quand on le met en pratique. Alors, vous l'avez entendu, le thème ce matin du culte en entier, ou en tout cas du message, c'est la prière, et c'est ce que nous allons donc méditer ce matin. Mon but ce matin, c'est de comment notre texte, le texte de Matthieu, peut enrichir notre vie de prière. Comment on peut s'inspirer de cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples pour nos prières personnelles. C'est intéressant de voir que c'est une question d'un des disciples qui a provoqué cet enseignement sur la prière. C'est dans l'évangile de Luc que un des disciples a demandé à Jésus « Enseigne-nous à prier ». Et donc on voit que les questions des disciples, eh bien, elles ont produit une bonne chose. Et que donc nous aussi, nos questions à Dieu, il ne faut pas avoir peur de poser des questions à Dieu, parce que ça peut nous faire progresser dans notre vie spirituelle. Si ce disciple n'avait pas posé cette question, ben peut-être que Jésus n'aurait pas donné cet enseignement sur la prière. Je crois qu'il l'aurait fait de toute façon, mais disons c'est intéressant de voir cela. Et donc c'est suite à cette circonstance que Jésus a enseigné cette prière. Et une autre chose à dire, c'est qu'en fait, moi j'ai grandi dans le milieu évangélique, et on n'a pas forcément souvent entendu parler, enfin moi j'ai pas souvent entendu parler de cette prière, parce que on a l'impression qu'elle est trop facilement dite par des gens qui n'y croient pas vraiment. Et en fait, cette prière, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle se retrouve dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Et elle est un peu différente dans les deux évangiles. Alors ça me fait dire qu'en fait, Dieu, il nous a pas donné ces mots pour qu'on les répète un peu bêtement, mais il nous a donné un peu un modèle pour qu'on soit inspiré dans nos prières. Et c'est un peu ce modèle aujourd'hui que je vais essayer de développer. Je veux dire aussi que c'est pas mauvais de simplement répéter ces mots, mais il faut penser à ce que l'on dit quand on dit cette prière. Quand on voit certaines personnes qui portent une certaine tenue, on reconnaît tout de suite ce qu'est la personne. Par exemple, si on voit quelqu'un qui porte un uniforme, eh ben on sait que c'est quelqu'un qui a une autorité, par exemple un policier ou autre. Si on voit quelqu'un qui est en habit de bleu de travail, eh bien on va penser que c'est un ouvrier qui travaille au chantier. Eh bien le Seigneur, il a voulu aussi, en enseignant cette prière, qu'on identifie celui à qui on s'adresse. Il dit qu'on prie notre Père. C'est intéressant de voir que Jésus a redonné cet enseignement sur qui était Dieu le Père. Et lui-même, il l'appelait aussi Abba, qui est un terme affectueux en fait. C'est comme s'il disait Papa à Dieu son Père. Alors, la révélation de Dieu comme Père, elle se trouve déjà dans le Premier Testament. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 63, on lit « C'est toi cependant qui es notre Père, ce n'est pas Abraham qui nous a connus, ce n'est pas Israël qui nous a distingués. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Rédempteur. » On voit donc que Dieu il s'est révélé très rapidement comme étant un Père de tous les êtres humains en tant que Créateur, et un Père spécifique pour ses enfants en Jésus-Christ. Alors on a lu le texte et on a vu que Jésus, il nous demande d'entrer dans notre chambre et de fermer la porte pour prier. On voit donc que quand on prie, on est appelé, en tout cas dans notre temps personnel de prière, à trouver un endroit particulier, spécifique, un endroit qu'on connaît, un endroit habituel, où on peut être tranquille pour s'adresser au Seigneur. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, il entend la prière de tous ses enfants, même s'il prie en même temps sur toute la terre. Et on peut s'imaginer que même en ce moment, il y a des chrétiens qui prient de l'autre côté de la terre, et que le Seigneur, il les entend également, et il entend aussi la prière de chacun dans sa chambre. Je reviens un peu à la question de Dieu comme Père. Ce n'est pas évident pour tout le monde de comprendre cela. Dieu comme Père, c'est-à-dire c'est un Dieu qui manifeste les qualités d'un Père qui est parfait, d'un Père qui est aimant. Si on a eu un Père qui n'était pas aimant pour nous, il ne faut pas qu'on projette cette image sur Dieu le Père. On voit que Jésus a vraiment voulu que le chrétien comprenne qu'il est relié à Dieu le Père. Et dans l'Épître aux Romains, par exemple, on lit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, un esprit pour être esclave, ou encore pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, pour être adopté spirituellement, par lequel nous crions « Abba, Père ». Jésus, il est venu pour nous montrer que dans la prière, on peut s'adresser à Dieu le Père comme notre papa, comme notre père. On peut vraiment lui confier ce qu'on a de plus profond sur notre cœur. Il y a néanmoins une condition, c'est qu'effectivement, on ait reçu l'amour de Dieu. C'est qu'effectivement, un jour dans notre vie, on a dit à Dieu qu'on demandait pardon pour nos fautes, pour notre rébellion, et qu'on a choisi d'accepter le cadeau de Dieu au travers de Jésus. Mais une fois qu'on a fait cela, eh bien, on a une très très grande liberté pour s'approcher dans la prière de ce Père. Au verset 8, Jésus dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Je trouve intéressant ce verset parce qu'il nous dit deux choses. Il nous dit pas déjà de ne pas prier, puisqu'il dit « avant que vous le lui demandiez ». Dieu, il connaît tous nos besoins, mais il veut qu'on le prie. Ça, c'est un peu un paradoxe. Mais Jésus, il dit bien « votre Père, il sait de quoi vous avez besoin, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez tout lui confier, avant que vous le lui demandiez ». Ce qui veut dire que Jésus, il pense, il croit que les chrétiens, ils vont faire part de leurs besoins à Dieu. Ça me fait dire aussi que lorsqu'on prie Dieu, il n'y a pas une manière correcte ou une manière unique de prier Dieu. Il n'y aurait pas une seule façon qu'il faudrait respecter pour s'adresser à Dieu. Il ne faut pas chercher une stratégie par laquelle on pense que Dieu répondrait mieux à nos prières. Il faut simplement lui parler comme à un papa, comme à un père. On n'est pas en train de marchander quand on prie Dieu. On est en train de s'adresser à quelqu'un qui nous est favorable et qui veut notre bien, même si cela signifie aussi qu'il va permettre des épreuves dans notre vie pour nous faire grandir. Alors j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Jésus a parlé de cette chambre dans laquelle on est censé être pour prier Dieu personnellement. Et ça signifie concrètement que chacun, on est appelé à avoir un lieu où on sait qu'on prie régulièrement le Seigneur, un lieu où on est tranquille. Mais aujourd'hui, pour être tranquille, ça signifiera plus que simplement entrer dans sa chambre. Il faudra, je pense probablement pour la plupart d'entre nous, éteindre le téléphone portable, éteindre la radio, la télévision et toutes sortes de choses. Il faudra donc faire peut-être plus d'efforts aujourd'hui pour trouver ce lieu de tranquillité. Mais c'est important qu'on cherche personnellement comment on peut avoir ces temps personnels avec le Seigneur. Alors Jésus et Paul et l'Église du premier siècle, ils n'avaient pas ces problèmes-là. Mais la Bible nous dit déjà qu'il faut entrer dans sa chambre et fermer la porte. Alors je trouve que c'est magnifique que voilà, il y avait déjà l'idée comme quoi ils pouvaient être dérangés et nous on peut l'être encore plus aujourd'hui. Mais on voit là que c'est la parole qui est éternelle et qui était déjà actuelle à l'époque. J'en viens maintenant au contenu de la prière. La première demande qui est faite, la première phrase, c'est que le nom de notre Dieu soit sanctifié. Alors cette parole, on peut la comprendre aussi comme une parole d'adoration pour commencer la prière, pour commencer ce temps de prière. La sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, elle doit être reconnue par tous. Et en commençant notre prière en évoquant cette sainteté ou cette grandeur de Dieu, eh bien, on se décentre de soi-même et on tourne le regard vers le Seigneur. Aussi, on n'entre pas tout de suite dans ce que Dieu peut faire pour nous, dans nos demandes ou dans nos intercessions, mais on affirme qui il est. Il est le Dieu saint, il est le Dieu à part, et on peut aussi dire d'autres attributs de Dieu, d'autres choses que Dieu est pour nous. On peut dire qu'il est le Dieu parfait, le Dieu bon. Et dans la Bible, il y a toutes sortes de qualités qui sont attribuées à Dieu, qu'on peut utiliser dans notre prière pour d'abord dire qui il est pour nous. Il est le Dieu qui pourvoit, et ainsi de suite. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que voilà, c'est pas simplement parce qu'on dit les mots que ça sera une réalité pour nous. Il faut évidemment que tout ce qu'on apporte au Seigneur en parole, ce soit quelque chose aussi qui soit vécu dans notre vie. Il s'agit donc d'abord de que notre cœur soit changé et que nous soyons certains que notre cœur a été changé pour nous adresser à Dieu et ensuite lui apporter les paroles que nous voulons lui apporter. Au verset 10, Jésus aborde la question du règne de Dieu. Il dit « que ton règne vienne ». Alors Jésus, il a prêché dès le début de son ministère que le règne de Dieu ou le royaume des cieux s'était approché des gens. Alors parfois, il y en a qui disent, on peut entendre, mais le règne de Dieu, il va de toute façon venir, que je prie ou non. Oui, c'est vrai. Mais Dieu, il désire toujours nous associer à son action. Non pas que c'est par nous que les choses vont se faire, mais c'est une bénédiction pour nous que de prier que le règne de Dieu vienne. Jésus, effectivement, reviendra un jour physiquement et il va instaurer un règne qui aura une réalité visible. On dit aussi souvent que, voilà, on parle que le règne de Dieu vienne et la question à se poser, c'est comment est-ce que dans ma vie, le règne de Dieu se manifeste ? Aussi, je voudrais dire que parfois, on n'a peut-être pas l'envie ni la force de prier ce genre de prière, parce qu'on est surmené ou parce qu'on a beaucoup de soucis. Eh bien, justement, en se tournant vers Dieu, en cherchant d'abord à reconnaître qui il est, en proclamant ce qu'il fait, eh bien, on va être nous-mêmes fortifiés dans la foi. On va aussi avoir un nouveau sens des priorités dans notre vie. Si la question du règne de Dieu est une priorité dans notre vie, eh bien les autres domaines dans notre vie, ils vont s'agencer, ils vont tenir leur place à leur juste place. En priant que le règne de Dieu vienne et en faisant ce qu'il faut pour que ce règne soit manifeste dans notre vie, eh bien on ne perd pas son temps. Au contraire, c'est peut-être une manière de gagner du temps. Jésus, il dit ensuite « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Alors cette partie de la prière, elle est aussi très engageante, parce que quand on dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien encore une fois, il s'agit aussi que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Ce qui est formidable, c'est qu'on a l'exemple du Seigneur qui a prié, qui a dit cela. Il a dit « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il a dit cela avant d'aller à la croix, Jésus. On voit donc que Jésus, au moment le plus difficile de sa vie, il a dû faire ce choix de dire à Dieu que sa volonté soit faite et non pas la sienne. Alors ça, c'est, comme on l'a dit, une prière qui est très engageante pour chacun d'entre nous. Mais c'est vraiment le modèle à suivre, que la volonté de Dieu se fasse dans la vie de chacun d'entre nous et que ce ne soit pas notre propre volonté ou nos propres mauvais désirs qui nous conduisent. Dans la Bible, on a toutes sortes de paroles qui nous montrent les bénédictions qui sont associées à celui qui suit le Seigneur. La fin du psaume 16 dit « Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Alors c'est un langage un peu ancien, mais ça veut dire qu'il y a des choses merveilleuses quand on cherche la présence du Seigneur. Alors si on croit que cela est vrai, et si on le proclame, eh bien, ça va changer aussi notre façon de vivre notre relation avec Dieu. C'est pas simplement que Dieu, il nous demande de faire des choses, c'est plus aussi que Dieu, il nous promet des choses merveilleuses quand on s'engage pour lui. Et au fond, la meilleure manière de suivre le Seigneur, c'est d'être poussé par son esprit et d'être conduit par lui. Quand Jésus dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », on voit aussi qu'il y a un autre niveau duquel Jésus parle. C'est le niveau justement que les choses qui se font au ciel, eh bien, elles soient faites sur la terre. Alors, lorsqu'on regarde les nouvelles de ce monde, eh bien, on voit très peu de choses qui se font selon la volonté du Seigneur dans notre monde. On voit plutôt que les choses se dégradent et ça peut être décourageant pour certains. Toutefois, voilà, Jésus, il a dit ces paroles il y a environ 2000 ans. Et on sait que la volonté de Dieu, eh bien, c'est de sauver tous les hommes et que pour que les hommes soient sauvés, eh bien, il faut que la prédication, l'évangile, il soit annoncé à tous les hommes. Et si on regarde depuis 2000 ans, eh bien, on voit que l'évangile, il a été amené dans pratiquement toutes les régions, qu'il a été beaucoup plus répandu sur la terre qu'à l'époque de Jésus. On voit que par la radio, la télévision et même l'internet, eh bien, l'évangile, il peut atteindre des régions qui, à 2000 ans, c'était pas possible. Donc, cette prière que la volonté de Dieu se fasse, elle est déjà en train d'être répandue, en tout cas pour l'annonce de l'évangile. Évidemment, il y a toujours chaque nation et chaque génération, elle doit prier cette prière pour que la volonté de Dieu se fasse dans notre pays et dans notre génération. Il y a quelqu'un qui a dit « La prière est un puissant instrument, non pas pour que la volonté de l'homme se fasse au ciel, mais pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. » C'est encore une fois chacun on doit s'examiner soi-même et demander au Seigneur que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie et que ce qu'il désire au ciel eh bien, soit également fait sur la terre. La quatrième requête, elle est une demande très concrète. C'est celle d'avoir notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Alors, nous croyons en Dieu, nous croyons qu'il pourvoit à nos besoins, mais cela ne signifie pas qu'on ne doit pas travailler ou ne pas chercher à subvenir à nos besoins. Quelqu'un qui dirait « j'ai qu'à demander à Dieu et il va tout me donner et j'ai rien besoin de faire », il est dans l'erreur. Parce que Dieu, il désire évidemment que nous travaillions et que nous gagnions notre pain quotidien, mais il désire surtout que même ce que nous gagnons par notre travail, nous comprenions que ça vient de lui. Nous comprenons en fait que tout ce que nous obtenons, même dans notre travail ou par d'autres moyens, ce sont des choses que Dieu nous donne dans sa grâce, comme des cadeaux. Il désire que ce soit vraiment dans notre cœur un sujet de reconnaissance que d'avoir un travail ou que d'avoir assez à manger chaque jour. Et voilà, c'est le cas pour la plupart d'entre nous en Occident et nous pouvons vraiment louer le Seigneur pour cela. Mais peut-être que cette prière peut nous faire penser à autre chose. Peut-être que Dieu, il désire nous utiliser pour amener le pain à quelqu'un qui en manque. Pour amener le pain à ceux qui sont moins bien lotis que nous. Et dans ce sens-là, eh bien, donnons-nous notre pain quotidien, eh bien, que nous soyons aussi ceux qui puissions amener aux autres le pain quotidien. Toutes ces choses nous montrent en fait que nous sommes appelés à être totalement dépendants du Seigneur. Tout en n'abandonnant pas les responsabilités de la vie, nous sommes appelés à croire que Dieu est celui qui nous guide et qui nous aide à faire notre travail quotidien. Dans Matthieu 6, Jésus a dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est donc réellement aussi une attitude de cœur que nous sommes appelés à avoir face à nos propres besoins et face à ce que Dieu nous donne. Lorsqu'on dit aussi « Donne-nous notre pain de ce jour », on remarque que Jésus ne dit pas « Donne-nous assez à manger aujourd'hui et aussi des provisions pour les 3 prochaines années ». Alors, c'est pas que Dieu, il est contre le fait d'amasser en prévision des temps difficiles. Hein. Dans les proverbes, on nous recommande de regarder la fourmi, hein, et on nous dit de justement être prévoyant. Mais cela signifie aussi, je pense, que nous sommes appelés à avoir une certaine sobriété face aux besoins matériels. Dieu, il nous donne pas des choses superflues. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Alors que nous aussi, dans notre vie de prière, on sache demander ce qui est vraiment nécessaire pour notre vie. Alors ça va forcément s'opposer contre beaucoup de valeurs qui sont dites dans ce monde, où forcément c'est plutôt le superflu et puis l'excessif qui règne, disons. Mais le chrétien, il est appelé à être différent à ce niveau-là. Aussi, si on arrive à vivre dans une certaine sobriété, eh bien, on va économiser à la fois du temps et de l'argent. Et ça sera d'autant plus de temps et d'argent qui peuvent peut-être être employés pour le Seigneur davantage. Alors, on aura en plus une occasion supplémentaire de servir Dieu. La dernière demande dans cette prière que Jésus a enseignée, elle concerne les offenses. Concerne nos fautes envers Dieu et envers les autres. Alors ça, c'est probablement un des passages les plus difficiles à mettre en pratique, parce que directement, ben voilà, on est concerné. Quand quelqu'un nous a fait du mal, quand quelqu'un a péché contre nous, c'est pas naturel pour un être humain de lui pardonner et de lui pardonner. En fait, c'est uniquement en apportant toute la situation à Dieu et en lui demandant justement la force de pardonner qu'on peut arriver à pardonner. Mais je pense qu'il y a un effort à faire de la part de notre volonté. On doit d'abord décider qu'on va pardonner à la personne et aussi en même temps demander à Dieu la force pour qu'on pardonne réellement cette personne. Ce pardon, il est forcément lié au fait que Dieu, il nous a pardonné et que son pardon, il est infini. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'arrêter à un moment donné. Et quand on pense au pardon de Dieu et au fait qu'on ne méritait pas ce pardon, eh bien c'est aussi pour nous une aide pour arriver à pardonner à ceux qui font du mal. Pardonner, ça ne veut pas dire forcément oublier ou dire que rien n'est arrivé. Mais ça signifie qu'on ne va plus tenir rigueur à la personne du péché ou du mal qu'il nous a fait. On va dire en quelque sorte, voilà, il y a eu ça qui s'est passé, tu m'as fait du mal, intérieurement on peut le dire, mais je te pardonne parce que Dieu, il m'a pardonné infiniment plus que cela. Ensuite, forcément, il y a une nécessité de réconciliation. Et là, ça peut se faire, mais parfois ça ne se fait pas parce que l'autre ne veut pas se réconcilier. Mais si on ne pardonne pas, on risque de tomber dans de l'amertume dans notre cœur et ça ne sera pas bon pour nous. David, dans le psaume 19, il disait « Qui connaît ses fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. » On voit que même quand on est chrétien et quand on suit le Seigneur, il y a des choses pour lesquelles, eh bien, on ne réalise même pas qu'on fait du mal à Dieu ou qu'on pêche. C'est les fautes involontaires. Eh bien, si ces fautes-là, eh bien, elles sont censées être pardonnées par Dieu, eh bien, quand on connaît quelqu'un qui nous a fait du mal, eh bien, c'est d'autant plus une raison de lui pardonner. À la fin de la prière, Jésus aborde la question du règne de Dieu et aussi de la tentation. de la tentation, excusez-moi. On voit encore une fois que le chrétien il fait face à un ennemi qui est plus fort que lui, c'est le diable. Et c'est encore une fois une référence au fait qu'on est appelé à être totalement dépendant de Dieu, totalement dépendant de lui, et à compter sur lui justement pour résister au diable. Et la parole nous dit que si on résiste au diable, eh bien il fuira loin de nous. Mais il fuit loin de nous parce qu'il y a la vie de Jésus en nous. Et c'est en comptant sur le Seigneur et pas sur notre propre résistance qu'on arrive à résister au diable et aux tentations. Alors il faut s'entraîner, on peut grandir là-dedans, on peut devenir plus fort, mais même quand on a une certaine maturité, c'est toujours la même chose. Il faut s'appuyer sur le Seigneur pour résister au diable. À la fin de cette prière, Jésus parle justement du règne de la puissance et de la gloire qui appartiennent à Dieu dans tous les siècles. Alors cela, ça nous projette encore une fois dans cette dimension spirituelle et cette dimension future. Quand on prie, c'est bien aussi de remettre les choses dans une perspective plus grande que simplement nos sujets de prière ou simplement nos besoins du moment. C'est de voir que Dieu, il a un plan global pour toute l'humanité et que dans ce plan, eh bien, il y aura un temps où le règne de Dieu et sa puissance va se manifester de façon ultime et éternelle. Et si on pense à cela, eh bien, ça va aussi changer notre façon de prier. Parce qu'on ne va pas juste prier pour que Dieu nous accorde le beau temps aujourd'hui pour notre sortie d'église, mais on va peut-être prier aussi pour que Dieu nous accorde le beau temps, certes, mais qu'il accorde surtout que les personnes qui viendront à la sortie d'église soient fortifiées spirituellement et qu'elles vivent quelque chose avec le Seigneur par ce qui va se passer. C'est un exemple que je prends pour essayer d'illustrer justement comment on peut appliquer cette prière. Alors, on a choisi avec Roger et les deux autres pasteurs, frais de Grand-Lancy et de Mérin, de traiter des prédications sur la prière, parce que on va essayer de faire un séminaire sur la prière. Alors, je vais vous en parler un peu plus pendant les annonces, et ça va juste être un samedi après-midi et un dimanche après-midi. Ça aura lieu à la Pélisserie et on aura un orateur spécifique qui va venir nous enseigner sur le sujet de la prière. Alors on croit que c'est un thème très important pour tout chrétien de vraiment approfondir sa vie de prière. Alors même si vous ne venez pas au séminaire, mais je souhaite que vous veniez, je vous encourage à vraiment réfléchir à votre vie de prière, à vous inspirer de ce modèle qu'on a dans la Bible, qu'on a lu, qu'on a partagé aujourd'hui, pour progresser dans votre vie de prière. Ce matin, on a vu que justement cette prière que Jésus a enseignée, eh bien, il y avait à la fois des choses très spirituelles dans un sens, très un peu abstraites, mais qui sont réelles pour Dieu, et il y avait aussi des choses concrètes. C'est-à-dire que Dieu, il ne néglige pas les choses concrètes de la vie, mais il nous amène à aller plus loin avec lui. On a vu aussi que Jésus, il a donné cette prière pour tous ses disciples, pour tous, pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de personne qui est laissée à part dans le domaine de la prière. On est tous appelés à grandir et à progresser dans la prière. Enfin, on est réconforté, on est encouragé, parce qu'on sait que si on s'associe à Dieu dans la prière, on sait qu'un jour, eh bien oui, il y a son règne, il y a sa puissance et il y a sa gloire qui vont être pleinement manifestés. Lorsqu'on prie Dieu, on ne prie pas une illusion ou un concept, mais on prie quelqu'un qui va régner un jour pleinement, qui règne déjà spirituellement et qui va manifester sa grandeur de façon visible un jour et qui va sauver pleinement tous ceux qui se seront confiés en lui. On prie aussi celui à qui appartiennent la puissance. Et ça nous encourage. Ce matin, c'était réjouissant d'entendre les quelques personnes qui ont partagé des sujets de prière. Alors, il n'y a pas de petites ou de grandes prières, il n'y a pas de petits ou de grands exaucements. Il y en a, mais disons, chaque exaucement, c'est quelque chose qui nous réjouit devant le Seigneur. Et nous prions finalement celui qui un jour éliminera le mal et le diable. Et ça, ça doit nous encourager aussi lorsqu'on passe par des épreuves ou lorsqu'on a des amis ou de la famille qui souffrent. Nous savons que tout cela, eh bien, ça va s'arrêter un jour. Et que Dieu y donnera pleinement la consolation à tous ceux qui auront souffert dans ce monde. Amen.
Quand je vois la beauté.